Bonjour. À méditer un texte où, a priori, lorsqu'on lit le texte, on dit « Élisée, il est fada, c'est un débutant, il ne faut vraiment pas l'engager, c'est une sorte de prophète de pacotille. » Vous verrez, a priori, on lit les choses comme ça. Et c'est vrai que dans la vie, on peut voir les choses mortes alors qu'elles sont vivantes, ou des choses qu'on trouve vivantes, mais qu'en réalité elles sont mortes. Dieu nous invite vraiment à changer notre regard, à voir différemment. Alors ce texte ce matin, je vous invite à l'écouter d'abord dans votre ressenti, avec vos yeux humains, puis j'espère faire cette démarche, essayer de trouver comment Dieu voit les choses. Vous êtes d'accord? Ok. Alors pour cela, je me sens très seul, donc je vais inviter 5 personnes pour lire le texte. Dans cette histoire, j'ai besoin d'un prophète. Je ne sais plus qui j'ai choisi. Ah oui. Élisée. Vous savez, Élisée, c'est un type incroyable parce qu'il avait un homme avant lui, Élie. Élie, il a fait des trucs incroyables. Il a, par exemple, prié sécheresse pendant 3 ans. Puis après prier, boum, tu peux t'asseoir. Et il a plu. Il a demandé à Dieu le feu descendre sur son sacrifice et il y a tout qui a été consumé. C'est un type incroyable. Une manifestation de puissance, Élie. Et quand il arrive au bout de sa vie, Dieu lui dit, prends Élisée avec toi et c'est lui qui te succédera. Élisée, il tremblait comme une feuille. Et Élisée a dit, si c'est bien Dieu qui me choisit, j'aimerais une double onction. Élie était déjà super puissant et lui, il en demande 2 fois. Et vous savez quoi? Il a reçu une super puissance. Une super onction. Il a fait 2 fois plus de miracles qu'Élie. Il a fait des choses incroyables. Pas lui, mais Élisée. Dans ce récit, j'ai aussi besoin, comme on a toujours besoin, d'une femme. Waouh, Caro! Caroline va nous lire la partie d'une femme, la Tsunamite. Elle est appelée comme ça dans la Bible. Et puis cette femme, elle a un mari. On va dire que c'est le père de l'histoire, David. Vous verrez, comme souvent le père, il joue une petite partie de l'histoire. S'il y a un père, il y a un enfant. Qui est l'enfant? Et puis dans cette histoire, il y a un serviteur. Merci. Ce prophète Élisée, pour mettre en lien encore avec la louange tout à l'heure, un peu plus tard dans le récit, c'est un prophète à qui on est venu lui demander la parole du Seigneur. Il était sous pression. Et vous savez ce qu'il a demandé? Il a dit, ok, mais tu m'apportes une harpe. Et c'est une partie de la Bible qui nous montre que Dieu a donné la musique pour nous permettre d'être en relation, en lien avec ce regard différent. Et j'aimerais vraiment vous inviter à utiliser ces temps de louange, ces temps de musique pour permettre à dire à Dieu, Seigneur, je veux voir différemment. Alors on va lire ce texte, ils vont lire ce texte, essayez d'avoir vos réactions humaines, d'accord? Je ne sais pas qui est le premier, vous allez vous passer le micro selon ce que... Je ne sais pas qui commence. Okay. Ah oui, puis il y a David qui va vous faire le lecteur, voilà, merci.
Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, du coup, il se rendait chez elle pour manger. Cette femme dit à son mari.
Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous.
Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur.
Appelle cette Tsunamite.
Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi.
Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée?
Et la femme répondit.
J'habite au milieu de mon peuple.
Et il dit.
Que faire pour elle?
Géasi répondit.
Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux.
Élisée reprit la parole et lui dit.
Appelle-la.
Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit alors :
À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils.
Vas-y.
Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante.
Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il lui dit :
Mon père, mon... Non. Ma tête.
Le père dit à son serviteur :
Porte-le à sa mère.
Le serviteur alors l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et lui dit :
Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai.
Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat.
Tout va bien.
Puis, elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur :
Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise.
Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu, de loin dit à Géasi, son serviteur :
Voici cette Tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui : Te portes-tu bien ? Ton mari et tes enfants se portent-ils bien ?
Bien.
Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit :
Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et me l'a point fait connaître.
Ai-je demandé un fils à mon Seigneur ? N'ai-je pas dit : Ne me trompe pas ?
Et Élisée dit à Géasi :
Saint Érin, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant.
Et la mère de l'enfant lui répondit :
L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point.
Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna donc à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant :
L'enfant ne s'est pas réveillé.
Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et alors, la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là, par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela alors Géasi et dit :
Appelle cette Tsunamite.
Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit :
Prends ton fils.
Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Elle prit son enfant et sortit. Amen.
Voilà. Drôle de réaction, cette femme. On va s'attarder sur deux personnages, la femme, la Tsunamite, et le prophète. La femme, drôle de personnage quand même. On lui annonce qu'elle va enfin avoir un enfant, Et elle dit « Non, Seigneur !» Vous savez, on est souvent comme ça. On est dans la difficulté, on est dans le besoin, et puis quand Dieu s'approche, on dit « Oh, j'ai peur !» Parce que ça pourrait changer quelque chose, voyez. Ça nous demanderait une modification de comportement. On en a peur. On trouve ça dans la... clairement dans la... lorsque les disciples étaient dans la barque, puis qu'il y avait un gros orage, puis que Jésus apparaît, c'est leur sauveur, et ils ont peur. C'est une réaction naturelle. Idem pour cette femme. Enfin, le prophète de Dieu lui dit « Tu vas avoir un enfant ?» Elle a peur. « Ah non, mais je n'ai pas demandé ça. Mais qu'est-ce que tu me veux ?» C'est souvent comme ça. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? On prie « Seigneur, viens, viens, donne-nous le réveil !» Mais Seigneur, pas avant 9h parce qu'avant je suis fatigué. On est des fois coupé comme ça. Hein? En réalité, cette femme, dans la deuxième réaction, quand son enfant meurt, on voit qu'elle se trouve dans une situation, elle cherche une solution. Elle se dit « il y a quelque chose de plus quand même ». Elle va vers le prophète. Et là, elle a une réaction particulière. Elle lui dit « est-ce que je t'ai demandé quelque chose ?» Ben oui, mais non. Et on est souvent comme ça, oui et non. Et clairement, c'est quelque chose qui caractérise bien l'adolescence. Je veux, mais je veux pas. Ou je veux pas, mais ça me ferait plaisir. Et c'est une période de la vie où on est un peu partagé, où on ne se reconnaît pas trop, entre enfants et adultes, responsables, irresponsables, et ainsi de suite. En réalité, les réponses de cette femme doivent nous interpeller et nous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose de caché derrière. Le commentateur qui m'a interpellé, que j'ai lu et qui m'a fait prendre conscience de la chose, un M. Arnold, disait « La réaction de cette femme nous fait penser qu'elle a déjà eu des enfants, mais que certainement elles étaient atteintes d'une maladie génétique et que les uns après les autres, ils dépérissaient et mouraient. » Ce qui peut nous faire comprendre la réaction lorsque Dieu lui dit « Tu vas avoir un enfant » et il dit « Oh non, pas encore un drame !» Pourquoi ? Mais souvent, on a essayé dans nos vies. Mais c'était quelquefois la catastrophe. Alors, quand Dieu nous dit « On va y aller », il dit « Ah non !» Est-ce qu'elle aurait eu raison de s'arrêter là, sur ses difficultés, sur ses drames ? Non. Heureusement qu'elle va être enceinte et qu'elle va pouvoir recommencer son histoire. Mais effectivement... la maladie est là, les circonstances sont là et l'enfant meurt. C'est un peu recommencer. On peut entendre la réponse de cette mère qui dit « Mais je t'ai pas demandé de souffrir une fois de plus. Moi, ça m'allait très bien comme ça. Je me contentais d'avoir un vieux mari. » C'est le texte qu'il dit. Hein. Et pas d'enfant. Tant pis, mais au moins pas souffrir. Au moins pas souffrir. Oui, quelquefois... Dieu nous invite, non pas à la souffrance, mais à traverser les souffrances pour nous amener à quelque chose de plus grand, quelque chose qui correspond à son action et à sa promesse. Réfléchissons, nous, le nombre de fois où nos blessures nous arrêtent. J'ai déjà demandé ça, je me suis ramassé. J'ai déjà essayé ça, je me suis ramassé. Je suis encore plus mal qu'avant. On comprend bien, humainement, qu'on dise à Dieu, « Oh non, Seigneur, pas encore. » Et pourtant, Dieu nous aime tellement comme on est, qu'il ne peut pas nous laisser comme on est, par son amour. Deuxième personnage sur lequel je m'arrêtais, Élisée. Alors ce type, il est incroyable. Comme je l'ai dit, il est descendant, entre guillemets, d'une filiation de prophètes impressionnants, de puissance qui les trois, ils tremblaient quand ces gens ouvraient la bouche. Et puis là, excusez-moi, c'est un apprenti. Vraiment. Il n'y a rien qui fonctionne. Il ne voit pas que la femme, elle n'a pas d'enfant. Oh ! Après, il ne comprend pas. Il a toujours besoin de Guénazim pour lui traduire ce que la femme dit. Il a toujours besoin de Guénazim pour lui dire à la femme. On a l'impression qu'il tremble. Il doit être impressionné par cette femme. Quelquefois, les mecs, on est comme ça, hein. Il perd ses moyens, il a toujours besoin de quelqu'un. Mais pas toujours devant les femmes, hein, attention. Et on voit que quand elle vient vers lui, il dit, mais Dieu m'a caché, je ne savais pas. Et donc, mais il est prophète, pourquoi Dieu ne lui a pas dit? Pourquoi il n'a pas entendu? Vraiment, c'est un bleu, hein? Vous êtes d'accord? Faut pas, s'il se présente pour le poste de pasteur prochainement, une autre fois, dans 4-8 ans, hein, faut pas l'engager, hein, il est vraiment nul. Hein. Il n'a rien entendu. Et puis quand là, il apprend ce qu'il fait, il envoie le bâton, ça ne fonctionne pas. Sincèrement, ça ne fonctionne pas. Genazi, il lui dit, je suis désolé, j'ai bien mis le bâton comme tu l'as dit. Je ne sais pas s'il fallait le mettre comme ça ou comme ça. Mais enfin, il n'est pas réveillé. Vous imaginez, il devait dire blanc, Élisée, quand même. Hein. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Puis la première fois, il se couche sur l'enfant, il fait tout ce qu'il peut, il appuie. De là. Il est que chaud. Et c'est qu'à la troisième intervention qu'enfin l'enfant éternue et soit guéri. Il a dû trembler quand même. Hein. C'est vraiment un bleu, ce prophète. Vous savez, je le vis moi et je suis conscient que lorsqu'on est dans une sorte de proximité avec nos familles particulièrement, là je parle au papa particulièrement, on est bien reconnu, il y a des choses qu'on sait faire professionnellement, il y a des choses qu'on sait faire même dans l'église. Et quand on se retrouve avec une proximité émotionnelle, quand on se retrouve dans notre cadre familial, ça c'est aussi pas valable pour les mamans, on est des bleus. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Pourquoi? Tu m'as lancé la perche, je te réponds. J'en sais rien. Toujours est-il que je pense que Dieu veut... Quand il intervient, il veut vraiment qu'on sache que c'est son amour qui intervient. Or, dans ma famille, si j'interviens, moi, c'est parce que j'aime ma famille. Alors, pour qu'il n'y ait peut-être pas de mélange, il nous invite à recourir à d'autres, peut-être, pour que ça ne soit pas l'action, le pouvoir de mon amour sur mes proches, mais que ça soit vraiment évident, que ça soit l'amour de Dieu pour mes proches. Parenthèse, hein, je ne sais pas si tu m'as lancé la perche. Mais maintenant, je ne sais plus où j'en suis. Est-ce que vous comprenez le trouble de cet homme, Élisée, appelé à faire deux fois plus de miracles et de ne pas arriver avec celle qui l'héberge? Élisée va avoir deux échecs dans sa vie. Un pseudo, celui-là, puis le deuxième, c'est Genazim, qui va vraiment mal tourner. Il va vouloir voler, enfin, puis il va finir avec une lèpre blanche, et toute sa génération, toute sa famille va être touchée par cette lèpre. Oui, Élisée n'a pas été forcément une bénédiction pour ceux qui étaient tout proches de lui. Mais reprenons les actes d'Élisée, parce que cet homme était un homme qui cherchait la volonté de Dieu. Et même dans son désarroi, je crois qu'il était dans le désarroi, il a accompli quelque chose d'extraordinaire. Et dans cette décomposition, permettez-moi de transmettre quelque chose. Première chose qu'il va faire, le bâton. Qu'est-ce que le bâton ? L'expression de l'autorité. Oui, mes amis, Dieu nous invite à prendre pouvoir, prendre autorité sur ce qui nous arrive et sur ce qui ne va pas. Quand Dieu promet quelque chose et que ça part de travers, on a le droit de prendre le bâton et dire « Stop là !» C'est comme quand il y a un crime et puis que la police met des bandes pour dire « Hé, on touche pas là !» Hop, c'est une scène de crime. Oui, nous avons besoin de dire et d'affirmer aux autorités du monde invisible négatif « Stop là !» Stop! Au nom de Jésus, stop! Et le bâton d'Élisée représentait cette autorité. Vous avez déjà essayé de faire ça? Quand les choses partent de travers, quand Dieu semblait vous conduire et puis que ça part de biais? Stop! Si vous l'avez déjà vécu, vous savez le résultat de ça? Aucun résultat. Aucun résultat puisque c'est invisible. Et c'est normal à quelque part. C'est que Genazim, qui, avec ses yeux complètement loufoques, d'humain complètement dégénéré, dit, il n'y a rien qui s'est passé. Mais c'est normal qu'il ne s'est rien passé. C'est dans le monde invisible que ça s'est passé. Et ça permettait, en réalité, aux êtres humains de s'arrêter. Si la femme avait dit au mari, à son mari, l'enfant est mort, vu l'heure de la journée, le mari aurait dû venir prendre le cadavre et l'enterrer. Le risque était que quand le prophète arrive, l'enfant soit en terre. Stop! Nous ne sommes pas d'accord. Et vous savez, nos louanges du dimanche matin, nos prières du dimanche matin aident. Nous avons besoin de prendre position et dire stop! Nous voulons la volonté de Dieu. C'est lui qui a gagné, c'est lui qui a autorité. Oui?
ça n'a pas d'effet attendu. Élisée se laisse conduire par Dieu. Et ça, c'est impressionnant, c'est peut-être la partie la plus centrale de ce message. Élisée ne va pas s'arrêter à Guénazim qui dit « Oh, c'est un mauvais, mon gars ». Il va partir dans l'intimité. Là, sauter un autre signe, c'est dans l'intimité, dans la profondeur. Et Élisée va fermer la porte et va se coucher. J'ai partagé ce texte aux jeunes qui me donnent un peu leur écho. Et il y en a un qui m'a interpellé, qui m'a dit, eh bien, il a du courage, Élisée, de se coucher sur